semaine d'actualité. Raphaël Constant.
Bonjour, ravi de vous retrouver ce samedi 8 juin pour revivre ensemble les temps forts de cette semaine. Retour sur l'actualité dans le monde, en France et en Afrique, grâce au reportage de la rédaction. Nous partirons au Soudan, au Sénégal, en passant par le Royaume-Uni et la France. Et nous nous arrêterons en Chine, la Chine au cœur de l'actualité cette semaine, avec notre invité Pierre Aski. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et écrivain, ancien correspondant du journal Libération à Pékin, cofondateur du site d'information Rue 89, président de Reporters sans frontières et aujourd'hui chroniqueur géopolitique à France Inter. Pierre Aski, vous venez de signer un livre et un documentaire intitulé « Liu Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin » chez Arte Éditions Collection Ikari. Tout de suite, je vous propose d'en écouter un extrait.
Des gens arrivaient de partout pour nous dire « On a tué des étudiants là-bas, on a tué des étudiants à tel endroit et à tel autre. » Après, on ne pouvait plus ni entrer ni sortir de la place, elle était bouclée par l'armée. Pour éviter un bain de sang, j'ai fracassé un fusil, une arme semi-automatique sur la stèle. Je sais que j'ai eu la chance de survivre aux événements du printemps de Pékin, alors que tant d'autres ont péri lors du massacre. J'ai toujours porté en moi un sentiment de culpabilité et de responsabilité. Car non seulement ils sont morts, mais le gouvernement dissimule toujours ce qui s'est passé place Tiananmen.
On vient donc d'entendre le début du documentaire, la voix de Liu Xiaobo, intellectuel et militant chinois qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2010. Pierre Aski, pourquoi ce livre et ce film qui sortent à l'occasion des 30 ans du printemps de Pékin ?
Pour deux raisons. La première, c'est que le personnage de Liu Xiaobo est central pour comprendre l'évolution de la Chine, à travers son destin tragique, puisqu'il est mort avant d'avoir fini sa peine de prison. Il était déjà emprisonné quand il a eu le prix Nobel, et il est mort avant d'en sortir
en 2017.
Donc c'est une vie qui résume l'histoire de la Chine des 30 dernières années, et qui permet de comprendre où elle en est aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est que le gouvernement chinois essaye d'effacer à la fois la trace de ce 4 juin, de ce massacre, et la trace aussi de Liu Xiaobo lui-même. Aujourd'hui, en Chine, il est impossible de trouver une mention de Liu Xiaobo. Vous faites une recherche sur Internet, vous tombez sur des messages d'erreur parce que ce nom n'existe pas. Et donc, il nous semblait important de garder une trace et de montrer à quel point il a eu une vie cohérente de sa période d'intellectuel à sa période d'activiste, dans sa vie politique comme dans sa vie personnelle. C'est quelqu'un qui s'est assis sur des valeurs fortes, qui a essayé de... il l'a dit d'ailleurs, il a préféré payer ce prix fort plutôt que de faire des compromis avec ses valeurs et ses idées.
Et donc Liu Xiaobo a vécu la répression de la place Tiananmen. C'était le 4 juin 1989 à Pékin, l'armée écrasée dans le sang, 7 semaines de manifestations étudiantes et ouvrières pour plus de démocratie et moins de corruption. Pierre Aski, qu'est-ce qui s'est joué ce jour-là en Chine ?
En fait, le point de départ, l'étincelle qui a déclenché tous les événements, c'est la mort de Hu Yaobang, qui était l'ancien secrétaire général du parti, réformiste, qui avait été chassé du pouvoir sous pression des durs. Et en fait, c'est tout l'enjeu de ces événements, c'est-à-dire que le parti était divisé entre ceux qui voulaient des réformes politiques, plus d'ouverture, et ceux qui voulaient garder le pouvoir exclusif du parti. Et donc ça avait déjà été le cas du départ de Hu Yaobang, et tout d'un coup ça redevient le cœur du débat. Et l'arbitrage qui a été fait par Deng Xiaoping, le patriarche à l'époque, le successeur de Mao à la tête de la Chine, qui était un vieux monsieur qui était retiré des affaires, mais qui restait l'arbitre des divisions internes du parti, et ben il a décidé d'utiliser la force pour réprimer les étudiants et donc tuer dans l'œuf cette demande de réforme. Et d'ailleurs, le secrétaire général du parti, Zhao Ziyang, a été chassé lui aussi du pouvoir, mis en résidence surveillée jusqu'à sa mort 16 ans plus tard. Il n'est plus jamais sorti de chez lui. Et c'est toujours ce qui se joue aujourd'hui, c'est que on est dans la ligne directe de 1989, parce que le parti aujourd'hui est inflexible sur cette idée qu'il n'y a pas de compromis possible avec cette demande de réforme politique. Et c'est étonnant, parce que en 89, au printemps 89, il y a deux histoires qui se croisent. Il y a l'arrivée de Gorbatchev, Mikhail Gorbatchev, le numéro un soviétique, qui est en train de faire des réformes politiques et qui échouera, puisque il perdra le pouvoir, l'Union soviétique sera dissoute, et il arrive à Pékin en plein dans ces événements, et il se retrouve au milieu de ce conflit interne du parti chinois. Et aujourd'hui, 30 ans après, le mot Gorbatchev, c'est un gros mot dans le vocabulaire du parti communiste chinois. Et tout nouveau dirigeant, et c'est le cas de Xi Jinping qui est là depuis 2012, tout nouveau dirigeant doit prouver qu'il n'est pas un Gorbatchev chinois. Donc on voit bien que les problématiques, même si la Chine a énormément changé en 30 ans, elle s'est développée économiquement, elle s'est développée même socialement, il y a une classe moyenne importante, etc. La problématique reste fondamentalement la même.
L'actualité internationale de cette semaine a donc été marquée par le triste anniversaire de Tiananmen, et le régime chinois maintient encore un étanche couvre-feu médiatique sur cette nuit du 3 au 4 juin 1989. Tiananmen n'est toujours pas entré dans les manuels scolaires en Chine, et les témoins de ces événements sont toujours surveillés, bâillonnés. Stéphane Lagarde, notre correspondant en Chine, est allé à la rencontre des anciens du 4 juin, restés à Pékin.
Une jambe coupée au genou dans la nuit du 3 au 4 juin et l'hépatite C transmise lors de l'amputation à l'hôpital où il était soigné. 30 ans après, M. Chi porte les stigmates de la répression armée place Tiananmen. Zhang Lifan.
La Chine a été terriblement blessée par cette histoire. La douleur durera encore très longtemps, je pense au moins deux siècles. Avant le 4 juin 89, la réflexion politique a été interdite pendant des années. Puis nous avons survécu à l'époque de Mao. 1989 a été une libération. Tout le monde se passionnait pour le bien commun et pour la politique. Avec le 4 juin, ça s'est arrêté d'un seul coup. Les Chinois d'aujourd'hui ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne s'intéressent plus à la société, ni même à leur pays. C'est le règne du chacun pour soi et de l'égoïsme. Nous jouissons de nouvelles richesses. Nous sommes comme dans un rêve éveillé. Mais les valeurs et la morale ont disparu. On ne parle plus de politique. Même les élites du régime, qui ont subi quelques revers pendant le printemps de Pékin, ont préféré abandonner leur carrière officielle pour se lancer dans les affaires.
Une société sans mémoire dans une république populaire de l'amnésie, pour reprendre le titre d'un ouvrage publié par une consoeur de la radio publique américaine au moment du 25e anniversaire. Trois décennies ont passé depuis que la jeunesse de Chine a été coupée dans son élan. 30 ans et le portrait du vieux Mao est lui toujours là, témoin muet du sang versé, trônant face à la plus grande place du monde.
Extrait du grand reportage Tiananmen, la mémoire volée. Pierre Aski, on l'a entendu, les souvenirs sont présents dans l'esprit de ceux qui ont vécu Tiananmen, de ceux qui se sont réfugiés en dehors de la Chine aussi, ou de ceux qui ont été emprisonnés comme Liu Xiaobo. Mais finalement, est-ce que la Chine a vraiment perdu la mémoire ?
Elle perd la mémoire parce qu'il n'y a pas de transmission. Et quand il n'y a pas de transmission, ben cette mémoire va disparaître avec les témoins et les acteurs de cette époque. Il n'y a pas de transmission parce que l'État a décidé qu'il n'y aurait pas de transmission, mais il n'y a pas de transmission aussi parce que les parents qui ont pu vivre cette époque n'en parlent pas à leurs enfants pour les protéger. parce qu'on est dans une Chine très compétitive aujourd'hui. On l'a entendu, la course aux positions économiques est très forte et très acerbe. Et les parents veulent donner le maximum de chance à leurs enfants et donc ils les protègent des mauvais souvenirs de l'histoire de la Chine. Et c'était déjà le cas avec la génération précédente où les parents qui avaient vécu la révolution culturelle n'en parlaient pas à leurs enfants pour les protéger de ces mauvais souvenirs. Donc oui, il y a une amnésie générale, mais je ne crois pas qu'on puisse durablement ou éternellement, disons, mettre le couvercle sur des événements aussi traumatiques. Et donc un jour ou l'autre, ça reviendra à la surface et ça reviendra peut-être avec violence, avec brutalité. Il faudra peut-être attendre que les acteurs politiques, comme le Premier ministre Li Peng, qui est l'homme qui a déclenché la répression et qui est toujours en vie aujourd'hui, il faudra peut-être attendre qu'ils aient disparu de la scène, mais en tout cas, ça reviendra certainement.
Et jusqu'où va la censure en Chine? Comment aujourd'hui on peut encore cacher l'élan citoyen de plusieurs millions de Chinois et un massacre de plusieurs milliers de personnes?
Vous savez, c'est un mystère de penser qu'on peut façonner l'esprit d'1,4 milliard de personnes. Et pourtant, c'est un tour de force que réussit le pouvoir chinois aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que le 1,4 milliard de personnes ignorent ces événements, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité d'expression publique de cette mémoire, ni de débat, ni même de fait. Et aujourd'hui, un jeune de 20 ans en Chine qui passe par le système scolaire chinois et qui est sur Internet sans être particulièrement politisé, n'a aucune chance de tomber sur ces événements, sur le souvenir de ces événements. Et c'est comme ça qu'on à la fois par la censure effective de la toile chinoise et par la peur de ne pas être sûr qu'on sera pas pris si on fait une recherche un peu trop fouillée, parce que tout le monde sait qu'il y a des moyens de contournement de la censure et des murailles de Chine électronique, mais est-ce que vous êtes absolument certain, si vous faites ça, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va frapper à votre porte dans 10 minutes pour vous dire « Monsieur, vous êtes allé sur un site interdit, suivez-nous ». Et donc, dans le doute, on s'abstient.
Mais il n'y a pas que sur la toile que cette censure est effective. On sait que dans les universités, les professeurs sont filmés pendant leurs cours.
Ils sont effectivement filmés. Et donc, il y a, tous les témoignages le disent, un appauvrissement de la possibilité, de la marge de manœuvre qu'avaient les enseignants autrefois. Aujourd'hui, non seulement ils sont filmés, mais il y a aussi parmi les étudiants des gens qui les questionnent, qui les dénoncent, parce que la jeunesse est travaillée par un nationalisme très puissant, et on a des histoires d'enseignants qui se retrouvent défiés par leurs étudiants en disant « mais ce que vous venez de dire est anti-chinois, vous devez vous présenter vos excuses ». Donc ce sont des phénomènes qui poussent à l'autocensure et donc à garder pour soi ce qu'on sait, ce qu'on pense, pour ne pas prendre de risques.
Alors il y a un endroit en Chine où on peut encore parler des événements du printemps de Pékin et les commémorer. C'est à Hong Kong, où tous les ans sont organisées des veillées en mémoire des morts. Mardi soir, notre envoyé spécial Stéphane Lagarde était sur la place Victoria à Hong Kong.
Les porteurs de la couronne de fleurs qui avancent au rythme des tambours, puis l'encens et la musique traditionnelle pour commémorer le souvenir des victimes de Tiananmen. Cette année, peut-être encore plus que d'habitude, la veillée du parc de Victoria est pleine d'émotions pour Andrew, ancien de la place de juin devenu homme d'affaires.
Je veux montrer mes sentiments sur le 4 juin. Je me sens déprimé et très en colère à propos de ce qui s'est passé. J'étais étudiant en 1989 et j'ai participé au mouvement à l'époque.
Andrew était à Pékin il y a 30 ans, la bougie qui vacille dans sa main témoigne de la colère qu'il conserve face à la répression brutale de ses camarades de jeunesse. Devant un grand calico représentant la cité interdite, place Tiananmen, Chong, un cuisinier d'une quarantaine d'années.
Je viens ici chaque année, mais cette fois c'est mémorable car ce sont les 30 ans et à mesure que le temps passe, il est de plus en plus difficile pour les gens de venir ici. Hong Kong retourne un peu plus dans le giron de Pékin chaque année et de nombreux Hongkongais ont choisi d'oublier.
La mémoire qui s'efface, l'amnésie venue du continent qui grandit. Appuyée contre un arbre, chandelle à la main, cette femme reprend les chansons entonnées sur la grande scène. « Je suis si triste, dit-elle, il faut que les veillées du 4 juin continuent à Hong Kong. C'est aussi le symbole de notre liberté. »
Pierre Aski, pourquoi est-ce que c'est toujours important de revenir sur ces événements de Tiananmen ?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais la principale, c'est peut-être la, la négation de cet événement par le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir chinois, vous savez, il y a eu un grand choc à l'époque parce que les jeunes qui étaient passés par le système éducatif, influencés par le parti, etc., étaient absolument convaincus que l'armée ne tirerait pas sur eux. C'était l'armée du peuple qui ne pouvait pas tirer sur le peuple. Et donc, le fait que cette armée leur tire dessus, les écrase avec des chars face à des étudiants désarmés, c'est un traumatisme qui est insurmontable pour tous ceux qui l'ont vécu. On l'a entendu avec ce témoignage. Et donc, le pire pour eux aujourd'hui, c'est peut-être moins le souvenir de ce qui s'est passé que le fait que le régime chinois continue à nier ce qui s'est passé et refuse même de donner un bilan. On ne sait toujours pas combien précisément il y a eu de morts ce jour-là. Les maires de la place de Tiananmen ont fait une liste qui comporte, je crois, 300 noms. Mais on sait très bien qu'il y a plein de parents qui ont peur ou qui ont subi des pressions pour ne pas participer à cette liste. Donc on ne sait pas si c'est 300 ou si c'est 3000. Mais c'est cette négation qui est, je pense, le plus obsédant pour les gens qui se posent la question. Et le fait qu'à Hong Kong, plus de 100 000 personnes se soient réunies le 4 juin, donc pour montrer que dans un petit bout de Chine, le village d'Astérix de la Chine, qui continue à entretenir cette mémoire, et qui est devenu aujourd'hui un peu une identité culturelle pour Hong Kong, c'est-à-dire que leur différence avec le reste de la Chine, c'est que eux peuvent se souvenir du 4 juin.
Et aujourd'hui, à Pékin, est-ce qu'un tel soulèvement populaire serait encore possible ? Est-ce qu'il y a des héritiers de cette histoire ou est-ce que la répression militaire a immunisé la Chine contre l'agitation politique ?
Je pense que l'histoire ne se répète pas de la même manière. Cette génération qui était sur la place Tiananmen en 89, c'était la première génération qui avait grandi après Mao, dans une Chine qui était en train de s'ouvrir. Les années 80, il faut quand même le savoir, et on le sait pas et on a du mal à l'imaginer, c'est la période la plus libre de l'histoire de la Chine depuis 70 ans. La Chine était plus libre dans les années 80 qu'aujourd'hui. Il y avait des débats intellectuels, il y avait la découverte de lectures de genres musicaux, on découvrait le rock, on découvrait l'individualisme. C'est ça qui est important. Un homme comme Jia Jiangke, le cinéaste chinois, m'a raconté un jour que dans cette période, il y avait les chansons d'amour de Hong Kong et de Taïwan qui arrivaient, qu'il n'avait jamais entendu avant, et il y avait des rapports entre les gens qui se nouaient, qui étaient différents, et il m'a dit, on est passé du « nous » au « je ». C'est-à-dire qu'on est passé du collectif à l'individuel. Donc il y avait un concours de circonstances particuliers. Aujourd'hui, on est dans une Chine avec une classe moyenne, avec des villes, avec la puissance de l'État et de l'économie. Et je pense que si contestation il y a, si défiance il y a, elle prendra d'autres formes que celle du passé.
Sept jours dans le monde. Une semaine d'actualité dans le monde, c'est aussi la visite du président des États-Unis, Donald Trump, à Londres. Après la famille royale, il a rencontré Theresa May, la première ministre démissionnaire. Theresa May et Donald Trump ont donc donné une conférence de presse commune où le président américain réaffirmait son soutien au divorce entre Royaume-Uni et Union européenne. Il répond à la question d'un journaliste, est-ce que le Royaume-Uni devrait quitter l'Union européenne le 31 octobre s'il n'y a pas d'accord ?
Eh bien, je n'aime pas prendre position sur des sujets que je comprends très bien le sujet. J'avais parfaitement prédit ce qui allait se passer. Et donc oui, je dirais que c'est ce qui va se passer et c'est sans doute ce qui doit se passer. Ce pays est un grand pays qui veut avoir sa propre identité, qui veut avoir ses propres frontières et diriger lui-même ses affaires. C'est un endroit très, très spécial et je pense qu'il a droit à une place spéciale. Et c'est pour cette raison, pour d'autres aussi, d'ailleurs sans doute, mais surtout pour cette raison-là, que je savais que ça arriverait. Ça va se faire et je pense que la Première ministre a mené les choses jusqu'à un point où elles pourront être conclues dans un avenir assez proche. Elle a fait un très bon boulot.
Pendant ce temps-là, les opposants à Donald Trump ont, eux, décidé de se retrouver dans le centre de la capitale britannique pour manifester avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire, par exemple, « Trump n'est pas le bienvenu, Trump est un désastre pour le climat, Trump est raciste ». Pierre Aski, après des déclarations provocatrices sur la politique britannique, Trump a fait miroiter un accord commercial, je cite, « phénoménal » avec Londres après le Brexit, au nom de la relation spéciale qui unit États-Unis et Royaume-Uni. Mais Trump veut tout négocier, finalement.
Oui, je pense que les Britanniques devraient se méfier. Si j'étais à leur place, je ne croirais pas un traître mot de ce que dit Donald Trump. Et je pense que lorsqu'ils viendront à Washington pour négocier cet accord après leur sortie de l'Union européenne, ils vont trouver en face d'eux des négociateurs qui vont monnayer chaque ligne de cet accord. Donald Trump ne croit pas un seul instant à la relation spéciale, à la special relationship avec le Royaume-Uni, pas plus qu'il ne croit dans la moindre alliance. Il ne pense qu'en termes de... C'est un homme d'affaires qui se retrouve président et il continue à traiter le monde et les affaires publiques comme on traite la vie d'une entreprise. On fait des transactions. Et donc, dans les transactions, il y a un gagnant et un perdant. Et en général, il s'arrange pour que ce soit lui le gagnant. En tout cas, c'est sa volonté. Donc, je pense que dans cette affaire, il a dit la vérité beaucoup plus dans les interviews qu'il a données avant d'arriver au Royaume-Uni, où il était très méprisant, y compris vis-à-vis de Theresa May, que pendant sa visite. Mais il faut dire qu'il a une autre idée en tête. Lui, il est en ce moment obnubilé par une seule chose, c'est qu'il annonce dans quelques jours sa candidature à un second mandat, donc pour les élections...
Le 18 juin.
Voilà, et le 18 juin, il va annoncer qu'il est candidat. Donc je pense que tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit en ce moment n'a qu'un seul objectif, c'est de soigner son image aux États-Unis, donc les photos avec la reine, avec les Royal Guards à Londres, etc. Tout ça était extraordinaire pour lui parce que c'est de la bonne pub en politique intérieure.
Pour la campagne de 2020, voilà. Finalement. Autre actualité internationale, la visite d'État de Xi Jinping en Russie. Cette semaine, après une série d'entretiens au Kremlin avec Vladimir Poutine, le président chinois a participé au Forum économique russe à Saint-Pétersbourg. L'occasion pour les deux hommes de resserrer les liens entre Pékin et Moscou sur fond de tensions politiques et commerciales avec les États-Unis. Correspondance en Russie de Daniel Valo.
C'est avec un large sourire que Vladimir Poutine s'adresse aux dirigeants chinois. Pour le président russe, la guerre commerciale entre Pékin et Washington offre une occasion en or pour se rapprocher de la Chine. Et Vladimir Poutine de souligner la proximité des deux pays sur la plupart des sujets qui dominent l'actualité internationale.
Nos pays ont des points de vue concordants au sujet de la situation de la péninsule coréenne et nous allons continuer à collaborer avec nos partenaires chinois pour faire baisser la tension sur la péninsule. La Russie et la Chine travaillent ensemble également à une résolution pacifique de la crise syrienne. Enfin, nous sommes favorables à une stabilisation de la situation au Venezuela et restons attachés à une exécution totale de l'accord sur le nucléaire iranien.
Iran, Venezuela, Syrie ou Corée du Nord, les points d'accord ne manquent pas entre la Chine et la Russie. Le président chinois n'hésite pas d'ailleurs à présenter Vladimir Poutine comme son meilleur ami.
Pierre Aski, les investissements chinois en Russie se font encore un peu attendre. Est-ce que la Chine est réticente à l'idée de s'engager sur le marché russe ?
Je pense que la Chine à la fois est très exigeante sur le plan de ses relations commerciales. Elle monnaie son aide et ses investissements. Mais en même temps, je pense qu'elle est très contente, et en particulier Xi Jinping est très content de cette relation avec la Russie. Parce que il y a aujourd'hui, surtout à un moment où la Chine est attaquée par Donald Trump dans sa guerre commerciale et technologique, il y a vraiment deux blocs qui sont en train de se constituer, et cette semaine était assez symboliquement révélatrice, puisqu'il y avait d'un côté Xi Jinping et Poutine à Moscou, et de l'autre côté Trump et les Occidentaux, les Européens, les Canadiens, pour les commémorations du débarquement en Normandie. Donc on avait l'image de ces deux blocs. La Chine a tout intérêt à avoir cette bonne relation avec Poutine, et Poutine a également intérêt. Je pense que c'est une relation qui est extraordinaire pour les deux. La Chine trouve en Russie les hydrocarbures, le pétrole et le gaz dont elle a besoin, et elle est en train d'étendre sa toile là-bas. Pendant cette visite de Xi Jinping, on a annoncé que Huawei, qui est pourtant banni sur le marché américain par Donald Trump, sera chargé d'installer la 5G sur le territoire russe. L'entreprise Alibaba, qui est le géant chinois du commerce en ligne, a signé un accord pour s'étendre sur tout le territoire russe, c'est-à-dire une perspective absolument géante d'extension hors des frontières de la Chine. Donc il y a dans cette bataille entre, d'un côté, les BATX, qui sont les géants de l'Internet chinois, et de l'autre côté, les GAFA, qui sont les géants de l'Internet américain, il y a un enjeu majeur, et on voit bien que le monde va se partager entre les deux. C'est un peu ce qui est en train de provoquer Donald Trump, et la Russie, clairement, est dans le camp de la technologie chinoise.
Ouais, sur le plan géopolitique, on peut vraiment parler d'un axe russo-chinois d'un côté, et américain de l'autre, étant donné que Trump est vraiment en train de s'isoler sur la scène internationale.
Avec une Europe qui est pour l'instant en plein dans sa recomposition un peu chaotique et qui ne peut pas jouer de rôle politique autonome. C'est ce qu'essayent de faire les Français, les Allemands et quelques-uns, de faire renaître cette Europe politique. Mais pour l'instant, l'Europe assiste un peu en spectatrice à ce match sino-américain. Et Donald Trump a à la fois, je pense, des bonnes intuitions lorsque, par exemple, il questionne les pratiques commerciales chinoises, etc. Les Européens seraient d'accord avec lui, sauf qu'il ne cherche pas à avoir des alliés avec lui parce que il fait tout en solo. Il est dans l'unilatéralisme et ça, c'est sa grande faiblesse.
Une semaine d'actualité. Tout de suite, tour de l'actualité en France. Double séisme pour le Parti des Républicains cette semaine. Après les faibles résultats de la droite aux élections européennes, Laurent Wauquiez a annoncé sa démission de la présidence des Républicains. Anthony Latier.
Pronostic d'un député Les Républicains, celui qui sortira trop vite se prendra une balle perdue. Et c'est vrai, les prétendants à la succession de Laurent Wauquiez se font pour l'instant discrets. Ce qui est en discussion dans l'immédiat, c'est la date de la prochaine élection d'un nouveau chef, mais surtout la survie du parti. Le numéro 2, Jean Leonetti, assure l'intérim, alors que le président du Sénat, Gérard Larcher, est à la manœuvre. Avant même la démission de Laurent Wauquiez, il a appelé à bâtir un nouveau projet. Il en discutera ce soir avec plusieurs personnalités de la droite et du centre. Gérard Larcher peut être un très bon trait d'union. Il a quelques cartes en main, reconnaît un élu. Dans cette période d'incertitude qui s'ouvre, tout est sur la table. Mettre en place une direction collégiale, désigner un patron qui ne serait pas un présidentiable, changer le nom du parti ou même fonder un nouveau parti. Bref, tout faire pour ne pas disparaître. Alors que les partisans d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen intensifient leur offensive pour attirer à eux les élus LR, chez les macronistes, on se frotte les mains, tout se passe comme prévu, triomphe un cadre de la majorité.
Et mercredi soir, c'est Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui a quitté le parti LR. Pour elle, je cite, « le parti est cadenassé de l'intérieur dans son organisation, mais aussi dans ses idées ». En France, toujours jeudi 6 juin, on a célébré les 75 ans du débarquement sur les plages de Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à cette occasion, Emmanuel Macron et Donald Trump se sont rendus au cimetière militaire de Colville-sur-Mer en Normandie. Devant eux, plus de 10 000 invités, témoins et acteurs du débarquement des alliés pour libérer la France du nazisme en 1944, le président français a rendu un hommage à ceux qui ont débarqué.
Ce qui frappe encore 75 ans après, c'est le courage inouï, la générosité dont ils firent preuve. Il y eut durant ces heures-là comme une force qui allait et qui portait chacun vers son destin. C'est cette force d'âme qui les conduisit là, à des milliers de kilomètres de chez eux, pour porter secours à des femmes et des hommes qu'ils ne connaissaient pas, pour libérer une terre qu'ils n'avaient pour la plupart jamais foulée, sans autre boussole qu'une cause qu'ils savaient plus importante qu'eux, celle de la liberté, celle de la démocratie.
Il y a ceux qui font la guerre et ceux qui la subissent. Michel Alloin, civil normand, 94 ans, a vécu le débarquement à Caen le 6 juin 1944. Il avait alors 19 ans et à cause des bombardements incessants, il a dû se réfugier pendant des semaines dans les carrières souterraines de Mondeville. 75 ans après, il raconte.
Mais vous savez, les Allemands, ils mettaient tous les civils sur la route. Ça leur servait de bouclier humain. Les avions venaient pour mitrailler, ils attendaient que les civils soient partis ou et ils revenaient mitrailler, mais ça mitraillait sans arrêt sur la route, vous savez. Tout le monde en voulait un petit peu aux Américains quand même, tous les civils ont été tués par les Américains en fin de compte. Et par exemple, Caen, il a été bombardé, pourquoi ? Pour rien. Il n'y avait presque pas d'Allemands, il n'était pas dans Caen. Toutes les villes comme ça, Mortain, étaient massacrées pareil. Dans nous-mêmes, on se disait aussi, pourquoi la guerre ? Pourquoi la guerre ? Et encore maintenant, je me pose toujours des questions, hein, c'est terrible. Et pendant 50 ans, personne n'en a parlé. Je n'ai jamais parlé de tout ça avec ma famille. On n'en parlait pas. Et puis ça s'est décidé au 50e anniversaire, là. Ils ont cherché des témoins, et à partir de ce moment-là, c'est là qu'on en a parlé. Pour essayer de raconter aux jeunes, que les jeunes sachent ce qui s'est passé, il faut qu'ils réalisent qu'ils ont une belle vie par rapport à tout ça, parce que ma jeunesse a été gâchée, moi. Quand je vois les jeunes maintenant, tant mieux pour eux, hein, je suis content pour eux, mais il faut quand même qu'ils sachent que tout ce qui s'est passé.
Extrait du grand reportage de Si loin, si proche, débarquement en Normandie, la voix des civils. Pierre Aski, on évoque toujours le fait militaire lors des commémorations du débarquement, mais on oublie bien souvent que 20 000 civils normands ont été tués pendant les 3 mois qui ont suivi l'arrivée des Alliés en Normandie.
Vous voyez, on parlait tout à l'heure de la mémoire à propos de Tiananmen, la mémoire y compris dans un pays où elle est ouverte, où elle est possible, elle est souvent partielle, tronquée. Et dans ce cas, il y a eu quelque chose d'assez étrange, c'est que finalement la mémoire de ce débarquement, elle a été façonnée par des grands films, et des grands films américains. Le jour le plus long, Il faut sauver le soldat Ryan, qui ont été des films qui ont été vus par des millions de personnes et qui ont mis en valeur l'héroïsme et l'héroïsme d'abord des soldats américains. Et donc, les épisodes les moins spectaculaires peut-être de ce moment sont passés sous silence, à la fois le sort des civils, mais aussi, et ça a été le cas d'une cérémonie la veille du 6 juin avec Emmanuel Macron, en hommage à la résistance normande. Parce que ce qu'on sait peu, et parce que là encore la mémoire est très sélective, mais la résistance normande a joué un rôle clé dans cette affaire, parce que elle envoyait du renseignement, elle sauvait les pilotes qui étaient abattus, etc. Et donc ce sont les petits gestes qui ont préparé le grand geste. Et voilà, donc tout ça, c'est la mémoire, c'est un tout. Et ce témoignage, je trouve très très intéressant et très émouvant, évidemment.
Au lendemain du débarquement, 150 000 Normands ont été jetés sur les routes de l'Exode, pris en étau entre les Allemands et les bombardements alliés. On l'a entendu, Michel Alloin nous le disait, les Normands ont été tués par les Alliés. Et finalement, en France, le sacrifice de la population normande sera officiellement reconnu en 2014, seulement par François Hollande.
Oui, mais vous savez, c'est un peu le logique, parce que dans la première phase, il s'agit de rassembler, de créer un récit national qui unisse et qui permette de reconstruire à la fois le moral de la nation, mais aussi la nation tout court. Et c'est simplement dans un deuxième temps qu'on est capable de regarder dans la complexité des choses avec ses parts d'ombre. Et là, on est clairement dans une part d'ombre. Regardez le temps qu'il a fallu pour reconnaître les crimes de Vichy. C'est Jacques Chirac qui l'a fait. Le temps de la mémoire, là, de la part de l'État, peut être parfois un peu déconcertant.
Pierre Aski, vous êtes notre invité cette semaine. Vous signez un livre et un documentaire sur Liu Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin. Et avec vous, on décrypte l'actualité de la semaine, tout de suite du côté de Hong Kong, où jeudi, plus de 2000 avocats se sont rassemblés pour protester contre un projet de loi controversé sur l'extradition. Le texte doit être examiné dans les prochains jours et certains craignent que cette loi ne vienne renforcer l'emprise judiciaire de Pékin sur la région administrative spéciale. Florence de Changy.
Tous habillés en noir, les quelques milliers d'avocats ont marché sans pancarte ni slogan de la cour de dernière instance, la Court of Final Appeal, la centrale, jusqu'au bureau du gouvernement où ils ont observé 3 minutes de silence. Margaret Ng est une ancienne députée et une avocate de renom à Hong Kong.
Nous, les avocats, on considère que cette proposition d'amendement, c'est une attaque fondamentale contre l'état de droit à Hong Kong et aussi contre l'indépendance du système hongkongais par rapport au système chinois.
Plus loin dans le cortège, un jeune avocat qui préfère ne pas donner son nom ajoute son avis.
We can see China actually views extradition as a weapon.
On sait que la Chine utilise l'extradition comme une arme. On l'a vu dans le cas de Huawei. Et on s'inquiète que ces nouvelles lois d'extradition s'appliquent non seulement aux citoyens de Hong Kong, mais aussi à n'importe qui de passage à Hong Kong.
Le camp pro-démocratique espère qu'une forte opposition publique au cours de la manifestation prévue dimanche forcera le gouvernement à se donner plus de temps.
Pierre Aski, est-ce que ce projet de loi est synonyme d'une nouvelle attaque sur l'indépendance du système hongkongais par rapport au système chinois?
Oui, je pense qu'il n'y a pas de doute. Il y a un grignotage, en fait. La Chine ne remet pas en question les accords qui avaient été conclus avec le Royaume-Uni et qui garantissaient 50 ans d'autonomie à Hong Kong. En revanche, il y a régulièrement des pans entiers de cette autonomie qui sont floués ou qui sont détournés par des amendements comme celui-ci. Oui, clairement, c'est un pas de plus dans cette intrusion de Pékin dans la gestion des affaires de Hong Kong.
Suite d'une semaine d'actualité en Afrique, cette fois, au Soudan, lundi, l'armée a démantelé le sit-in des manifestants, symbole pacifique de la révolution. Dans un bain de sang, les violences ont fait plus d'une centaine de morts, selon le comité des médecins soudanais. À Khartoum, notre envoyé spécial, Sébastien Nemeth.
Cet assaut contre le sit-in était pressenti. Les putschistes avaient attaqué à 3 reprises la semaine dernière une autre zone baptisée Columbia. Ils avaient ensuite qualifié le sit-in de danger pour le Soudan à cause d'éléments incontrôlés. Depuis, les manifestants pensaient qu'une opération violente des militaires était possible à tout moment. Ensuite, ceux qui ont mené cette opération sont connus pour leur brutalité. Ce sont surtout les forces de soutien rapide, les FSR, un groupe de plusieurs milliers d'hommes, tristement célèbres pour de graves crimes commis au Darfour. Par ailleurs, depuis la chute d'Omar el-Béchir, début avril, putschistes et civils négociaient le partage du pouvoir durant la période de transition. Les deux parties discutaient surtout du partage des postes dans le Conseil souverain, l'organe qui devait gérer la transition jusqu'aux élections et devenir le cœur du pouvoir. Les civils refusaient de laisser le contrôle de cette institution aux militaires. Écraser le sit-in, c'est peut-être un acte pour faire échouer ce dialogue. D'ailleurs, l'association des professionnels a annoncé la rupture totale des négociations. Enfin, ce sit-in était installé devant le quartier général de l'armée depuis 8 semaines. C'était quelque part un défi pacifique, symbolique, lancé à l'armée. Les militaires ont peut-être voulu montrer à quel point ils étaient prêts à garder le pouvoir coûte que coûte.
Mercredi, le pays était toujours sous tension. Malgré cette attaque brutale, les Soudanais ne renoncent pas. Sébastien Nemeth.
Soigné dans un hôpital de Khartoum, Mahmoud Abdallah a le bras en écharpe et des traces de coups. Il a vu certains de ses amis mourir. Pourtant, l'étudiant de 25 ans ne perd pas espoir, au contraire.
La révolution vient juste d'être lancée. Ce qui s'est passé depuis 2 mois n'était rien. C'est maintenant que la révolte commence. Ils nous ont donné plus de volonté pour repartir à zéro.
Le bain de sang du sit-in a détruit un symbole mondialement connu de la révolution. Il a aussi mis un coup d'arrêt à l'élan populaire qui avait fait chuter Omar el-Béchir. Pour autant, selon Mohamed Ibrahim Ahmed, blessé à la tête et à la main, le mouvement reprendra tôt ou tard.
Le sit-in donnait de la puissance à la révolution, donc c'était une menace pour eux. Ils cherchent à nous affaiblir et à nous découvrir.
décourager, mais ça va nous renforcer. Pour l'instant, on doit se soigner, puis se réorganiser. En tout cas, plus ils essaieront de nous briser, plus on sera unis et déterminés.
Des communications ont en partie été coupées. Difficile pour l'instant de relancer le mouvement. Sora Mafi, manifestante de la première heure, attend un signal de l'Alliance pour la liberté et le changement, l'organisation à la tête de la révolution.
La révolution est toujours là, mais les gens ne savent pas quoi faire. Internet est coupé, on est désorganisé. J'attends que quelqu'un montre la voie, car les gens sont prêts à retourner manifester. On n'a plus rien à perdre, on n'a plus peur.
La PS a lancé des messages appelant à la manifestation, la grève et la désobéissance civile. Mais les militaires occupent les rues de Khartoum et brisent toute envie de résistance, pour l'instant en tout cas.
Pierre Aski, au cours de la semaine, les putschistes soudanais ont reculé. Le chef de la junte, Abdel Fattah al-Burhan, a dit regretter les violences et a appelé à la reprise des négociations. Alors que dans la rue, la répression continue. Comment expliquer une telle violence de l'armée ?
D'abord, la violence a été le fait d'un groupe particulier au sein de l'armée, qui sont en fait des paramilitaires, qui s'étaient illustrés au Darfour et qui sont de sinistre réputation. Et qui certainement ont voulu faire capoter les négociations qui avaient lieu entre les militaires et les civils. La question maintenant, c'est si les militaires sont sincères dans cette volonté de reprendre. Je pense qu'il va falloir qu'ils le montrent en acte très rapidement, et en particulier en sanctionnant ceux qui étaient responsables de ce massacre. C'est une histoire un peu tragique, parce que ce qui se passe depuis 6 mois au Soudan est absolument exemplaire. La manière dont la population s'est organisée, l'organisation.
On a vu des instances représentatives émerger,
l'élection
pour négocier.
De représentants, le rôle des femmes dans la négociation, dans le mouvement, etc. Tout ça était assez incroyable, avec un pacifisme qui était resté jusqu'à récemment de la part des manifestants très très clair. Est-ce que ça va pouvoir durer? Est-ce que il y a les conditions pour la reprise d'un dialogue entre les militaires et les civils existent? J'avoue que je ne sais pas, et que c'est peut-être trop tôt pour le dire. On est encore sous le choc de ce qui s'est passé en début de semaine, mais il faut l'espérer, parce que le Soudan mérite, après tout ce qui s'est passé, de sortir de cette situation. Le pays ne connaît depuis 3 décennies que des guerres, des massacres, une dictature islamo-militaire qui a été absolument ruineuse pour le pays. C'est un pays à la fois majeur par sa taille, par sa place géopolitique dans la région, mais c'est aussi un pays qui a une couche de professionnels, une classe moyenne urbaine, etc., très importante, et qui a les moyens intellectuels de se redresser. Et il faudrait pas qu'il en reprenne là pour en gros 10 ans de dictature après cette affaire.
Depuis que les manifestations ont éclaté à Khartoum, le Conseil de sécurité des Nations Unies est divisé parce que la Russie et la Chine considèrent que cette crise est une affaire interne et ne menace pas la sécurité nationale. Est-ce que la Russie et la Chine jouent la carte de l'argument de la souveraineté nationale qui primerait ?
Je crois qu'aujourd'hui on est dans une phase où les Nations Unies ne jouent plus leur rôle parce que, comme à l'époque de la guerre froide, chacun des détenteurs du veto, que ce soit les États-Unis ou la Russie et la Chine, protège ses clients, entre guillemets, ou l'idée de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, de peur que ça se retourne un jour contre eux. En l'occurrence, la Chine a des liens anciens avec le régime soudanais. Pour la petite histoire, c'est par le Soudan que, vous savez, la Chine est devenue importateur de pétrole au début des années 2000. Jusque-là, elle était autosuffisante. Et le premier pays vers lequel elle s'est tournée parce qu'il était en guerre et que personne ne voulait s'occuper du pétrole, Total, c'était la société française Total, s'était retirée du Soudan. C'est là que la Chine a commencé son expansion vers des sources de matières premières dans le monde. Donc il y a un lien très ancien et qui explique cette protection aujourd'hui pour le régime soudanais.
Jeudi, l'Union africaine a suspendu le Soudan jusqu'à l'installation d'une autorité civile. Une décision qui ne fait qu'appliquer les textes de l'Organisation panafricaine en cas de coup d'État. Et tout de suite, on part au Sénégal où le frère de Macky Sall, Aliou, est soupçonné par une enquête de la BBC d'avoir touché des pots de vin lors de l'attribution des deux champs pétroliers et gaziers en 2012. À l'époque, Aliou Sall était salarié de l'homme d'affaires Franck Timis qui a obtenu les concessions au large du Sénégal. Jeudi, le frère du président sénégalais contre-attaque et annonce une plainte contre la BBC. Guillaume Thibault, notre correspondant à Dakar.
Je vous remercie.
Devant une nuée de caméras, Aliou Sall, très serein, a démonté pièce par pièce l'enquête de la BBC, en dénonçant d'ailleurs un documentaire à charge et affirmé donc qu'il n'avait jamais touché les 250 000 dollars évoqués.
Quand on me dit vous avez vu les documents, ça veut dire que vous avez vu un document attestant que j'ai reçu un transfert de 250 000 dollars. C'est faux. En dehors de ce transfert imaginaire de 250 000 dollars, on ne me reproche que d'être le frère du président de la République.
Les avocats d'Aliou Sall, ici Maître Dian, ont donc indiqué que deux plaintes seraient déposées pour diffamation.
Nous allons immédiatement et sans délai porter plainte contre la BBC. Au niveau international, donc, c'est le cabinet de Londres qui va s'en charger. Et au niveau local, le plus rapidement possible.
La BBC affirme dans son documentaire que Franck Timis, en revendant ses deux concessions de gaz et de pétrole au groupe BP, a obtenu 250 millions de dollars et qu'il toucherait près de 10 milliards de dollars sur les 40 prochaines années. Des chiffres improbables pour Aliou Sall.
Je ne vois pas comment une compagnie qui doit gagner en 30 ans 7,7 milliards de dollars de façon brute peut payer des royalties de 10 milliards de dollars. C'est tout à fait une incongruité, mais en fait, ce n'est pas mon problème.
Les dossiers du gaz et du pétrole provoquent de vives tensions au sein de la classe politique. Le documentaire de la BBC devrait une nouvelle fois relancer les débats.
Une semaine d'actualité. Pierre Aski, pour conclure sur le thème principal de notre émission, de quelle Chine parle-t-on aujourd'hui? Parce que on est face à une république pleine de paradoxes, amnésique de son histoire, on l'a dit au début de cette émission, une pensée rigide contrôlée, mais une population hyper connectée, mais c'est aussi une puissance qui joue un rôle fondamental sur le plan international.
Oui, la Chine est à un moment un peu carrefour parce que elle a atteint un stade important dans sa puissance, donc elle pèse aujourd'hui sur les affaires mondiales, c'est incontestable. Elle est un des piliers de l'innovation technologique qu'elle utilise aussi pour le contrôle et la surveillance chez elle. Et elle a un régime qui n'a pas bougé, qui s'est même plutôt durci ces dernières années. Et donc elle est en passe de devenir l'une, sinon la première puissance mondiale, mais dans quel but? Est-ce que c'est à des fins hégémoniques, comme le soupçonnent ses voisins qui ont une longue histoire avec elle? Est-ce que les routes de la soie sont un moyen d'influence et de pouvoir pour la Chine? Il y a plein de questions qui se posent en ce moment et les réponses apportées par le pouvoir chinois ne sont pas satisfaisantes ni pour le peuple chinois ni pour les partenaires de la Chine. Et donc elle est dans un moment où elle devrait apporter ses réponses, sauf que le climat international ne lui permet pas de le faire. Donc on est dans un moment de confusion et donc de risque.
Notre émission touche à sa fin. Merci pour cet échange, Pierre Aski. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain, chroniqueur géopolitique à France Inter et auteur notamment d'un livre et d'un documentaire, Liu Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin chez Arte Éditions, collection Ikari. Rendez-vous demain dans Idée avec Pierre-Édouard Deldic pour la rediffusion d'un entretien avec le philosophe français Michel Serre qui nous a quittés la semaine dernière. Idée, c'est demain à 15h10 TU et 17h10 heure de Paris. Et tout de suite, un nouveau journal. Bon week-end et bonne semaine à l'écoute de RFI.